Je vous invite à ouvrir la Bible, on va faire deux lectures, la première dans le livre des Actes, au chapitre 17. Actes, chapitre 17, verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent pour agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Et puis on va dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er. Paul, Sylvain ou Silas, et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Voilà deux textes qui sont liés puisque Acte 17 nous raconte comment ça s'est passé à Thessalonique, comment l'église de Thessalonique a été ouverte, comment l'église est née. Et puis dans ce premier chapitre de l'épître aux Thessaloniciens, Paul écrit, ça lui va donner quelques conseils à cette jeune église et finalement dans ce premier chapitre, il rappelle quelques circonstances sur la naissance de cette église, sur comment ils se sont convertis. Donc ces deux textes se rejoignent et en coupant ces deux textes, je voudrais faire ressortir quelques éléments. Je voudrais tout de suite souligner que la conversion de ces Thessaloniciens ne s'est pas faite sans difficulté. Lorsque ces gens ont entendu l'évangile, ça a été difficile. Et il y a eu de l'adversité, de l'opposition, des critiques, des menaces, de l'intimidation. Ils ont traîné Jason, hein, vous avez vu, donc ça, on imagine que ça a dû être assez violent. Mais ce que j'admire toujours, et c'est ce qui a fait la renommée de ces gens, c'est que malgré ça, ils étaient dans la joie. Ils se convertissent, ils ont reçu Jésus et ça ne les a pas empêchés d'aller de l'avant. Le but de la prédication de l'Évangile, c'est d'amener à la conversion à Jésus-Christ. Le but de cet après-midi, c'est que vous puissiez entendre la voix de Jésus, si vous ne le connaissez pas, et qu'il devienne votre sauveur. Mais j'ai envie de dire, c'est de vous amener à une conversion un peu comme ces Thessaloniciens, une conversion retentissante. De partout, on parlait de ce qui s'était passé à Thessalonique. Ah, j'imagine comme ils ont changé, on ne les reconnaît plus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, certains disaient, on ne le reconnaît plus. Certains ont dit, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quand même. Mais vous voyez, il y a une conversion. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il y a quelque chose de retentissant. Vous avez des conversions retentissantes parce que la personne qui a donné sa vie à Jésus est célèbre. Vous avez des fois des personnes célèbres qui ont donné leur foi à Jésus. Alors il y a deux genres. Hein. Il y a ceux où c'est vraiment une conversion. Il y en a d'autres où il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Hein. Mais ici, il n'y a pas de gens connus. Il n'y a aucune personnalité célèbre. Mais leur conversion a été retentissante par le changement qu'on a pu observer. Je voudrais souligner quelques aspects remarquables de l'expérience de conversion de ces Thessaloniciens. Et la première chose que je voudrais souligner, c'est quelque chose que j'aime bien souligner, c'est que ces Thessaloniciens, ils n'étaient pas tous du même horizon. Dès le départ, on voit que c'est une église de mélange, où il y a eu des Juifs et des Grecs. Donc ça veut dire des éducations différentes, des horizons différents, des cultures différentes, des langues différentes. Ça a dû poser quelques problèmes dans cette église, hein, mais ça a fait quelque chose de beau. Dès le départ, il y a eu un beau panachage. Panachage, je ne sais pas comment dire. Mais l'Évangile, on le sait, n'est pas réservé à une élite, n'est pas réservé à quelques personnes. Mais l'Évangile, c'est pour tous. Alors lorsque Paul est arrivé à Thessalonique, il a commencé par aller à la synagogue. Pourquoi ? Parce que les Juifs étaient ceux qui étaient le mieux préparés pour accepter l'Évangile. Ils avaient eu la loi. Et la loi devait agir comme un pédagogue pour les conduire à Christ. Aussi, lorsque Paul faisait d'arriver dans ces villes, il commençait par la synagogue. Mais on se rend compte que ce n'est pas eux qui reçurent le mieux l'Évangile, puisqu'il nous est dit seulement quelques-uns crurent au Seigneur. Par contre, il nous est dit qu'il y a eu beaucoup de Grecs. Alors là, l'horizon est complètement différent. Les Juifs avaient un arrière-plan, ils avaient une moralité, ils avaient une éducation. Chez les Grecs, ça pouvait aller dans tous les sens. Dans les Grecs, il y avait des craignants de Dieu, c'est-à-dire des gens qui s'étaient rapprochés de la croyance juive, si je peux parler comme ça. Et puis, il y avait des gens qui venaient alors de tout horizon, des milieux païens, de toutes sortes, parfois de milieux occultes. Mais quel que soit leur horizon, à un moment donné, ils sont tous tournés vers Jésus. Et quand on se tourne vers Jésus, quelle que soit notre couleur de peau, Jésus nous sauve. Et j'aime le dire, on aime le proclamer, mais notre Dieu veut sauver tous les hommes, tous les pécheurs. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible nous dit que Dieu veut sauver tout le monde. On n'est pas d'accord avec Calvin quand il dit que seulement quelques-uns sont prévus pour être sauvés. Dieu veut sauver tout le monde. Tout le monde a été choisi. Bien sûr, pas tout le monde répondra à l'appel de Dieu. J'entends, Myriam l'a exprimé, elle a été placée devant un choix. On est, à un moment donné, on fait un choix. Soit je veux, soit je veux pas. Chacun libre de répondre. Mais tout le monde est appelé à venir à Jésus-Christ. Dieu veut sauver tous les pécheurs. Et il travaille. Bien sûr, c'est vrai, il y a des choses qui nous étonnent. Certains entendent plus l'Évangile que d'autres. Certains sont dans des contextes qui paraissent plus favorables. Ça nous échappe. On n'a pas les réponses. Mais Dieu veut sauver tous les hommes et tous les hommes sont concernés par la nécessité de se convertir à Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas réservé à une ethnie, ce n'est pas réservé à une génération, même si c'est vrai qu'on peut observer que dans certains pays ou dans certains continents, il y a des fois un souffle. Je me demande quelle sera la langue la plus parlée au ciel. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'espagnol, ça, on le parle beaucoup. Hein, quand on voit en Amérique du Sud le nombre de chrétiens qui se sont tournés vers Jésus, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas quelle langue sera, mais je sais qu'on entendra toutes les langues. Parce que Dieu se plaît à sauver des gens de toute race, de tout horizon, de toute langue. La deuxième chose que je voudrais dire sur la conversion de ces Thessaloniciens, c'est qu'il ne leur a fallu pas beaucoup de temps pour se tourner vers Jésus. Certains pourraient penser que pour devenir chrétien, il y a une longue initiation, il y a tout un parcours, il faut faire ceci, 2 ans là, 3 ans là, étudier ceci, apprendre cela, assimiler telle prière ou je ne sais quoi. Non, en l'espace de 3 sabbats, ça ne veut pas dire qu'il est forcément resté qu'un mois, mais on comprend en tous les cas que l'apôtre Paul n'est pas resté très longtemps à Thessalonique, hein, peut-être qu'un mois. Et à cause de l'hostilité des Juifs, en tout cas, il est parti comme ils ont pu. Mais en l'espace de 3 semaines, beaucoup de gens se sont convertis à Jésus-Christ. Des personnes qui, peut-être, un mois avant, n'avaient jamais envisagé de devenir chrétiens. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire pour certains. L'Évangile, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et puis, ils l'ont entendu. Et ils se sont tournés. Des fois, certaines personnes sont préparées depuis longtemps à entendre l'Évangile. Mais des fois, certains ignorent tout et placés au contact de Jésus-Christ, en l'espace de quelques instants, en l'espace de quelques minutes, on peut devenir chrétien et rencontrer Jésus. La soudaineté de leur conversion ne signifie pas une conversion superficielle. Hein. Il y avait de la profondeur dans leur démarche, on le voit. Au verset 10, il est écrit « Les frères firent partir Paul et Silas de lui. » Ses frères, c'est qui ? Ce sont des personnes qui, à moi, n'étaient pas des frères et des sœurs. Hein. Mais on voit qu'ils prennent des risques. Hein. Ils ont essayé, il y a eu une telle transformation qu'en peu de temps, ils sont devenus frères et sœurs dans la foi. Alors, bien évidemment, ces jeunes chrétiens avaient besoin d'être affermis. Ils avaient besoin de grandir, ils avaient besoin d'étudier, ils avaient besoin de croître. Mais ils étaient devenus d'authentiques chrétiens en l'espace de quelques jours. Parce qu'ils avaient entendu le message et ils avaient répondu favorablement. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de décision, question de réceptivité au niveau du cœur, je reviendrai dessus. Quand on lit l'épître aux Thessaloniciens, on se rend compte que finalement, ils ne se posaient pas trop de questions pour saisir les grâces divines. Alors, on voit que quasiment tous ces Thessaloniciens sont rentrés dans la vie de l'esprit et alors ça fait quelques erreurs ou quelques débordements ensuite. Mais au moins, ils y sont entrés. Il y a eu quelques erreurs de jeunesse, mais ils ont saisi. Et ça, je voudrais le dire à quelqu'un, c'est, je crois que ça ne demande pas longtemps pour devenir chrétien. Mais ça demande une démarche de foi, de recevoir l'Évangile et de se tourner vers Jésus. La troisième chose que je voudrais souligner sur la conversion de ces Thessaloniciens, c'est qu'elle passe inévitablement par une personne. La découverte de qui est Jésus. J'ai souligné comment Paul a procédé. Il est allé dans la synagogue, il a commencé par les Juifs, mais il nous a dit aussi ce qu'il a dit. Il nous a dit qu'il a expliqué et établi que Jésus est le Christ. C'est-à-dire qu'à partir des textes de l'Ancien Testament, il a expliqué aux Juifs que Jésus était celui qui était annoncé. Jésus était celui qui était attendu par la nation juive. Il a expliqué que Jésus était le Messie. Et puis il en arrive à dire que Jésus est le Dieu manifesté en chair. Et puis il a dit qu'il devait souffrir et ressusciter. Il a expliqué la croix. Il a expliqué que Jésus devait mourir. Mais non pas, ce n'est pas un accident. C'était voulu, c'était programmé pour que chacun d'entre nous puisse être sauvé. Jésus a donné sa vie sur la croix. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas une fin de parcours malheureuse. Mais c'était le programme de Dieu. Et il a expliqué tout ça. Et c'est quand on entend parler sur Jésus, qu'on entend, on découvre qui il est. C'est là que la conversion peut venir. La conversion, elle passe inévitablement par la découverte de qui est Jésus. La Bible parle de l'Évangile comme l'Évangile de son Fils, l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il est impossible de découvrir l'Évangile sans découvrir qui est Jésus. On ne se convertit pas cet après-midi, je ne prêche pas la conversion à un système, à une nouvelle religion. Hein. Ce qu'on veut, c'est que vous vous tournez vers Jésus-Christ et que vous le découvriez comme votre sauveur, celui qui pardonne les péchés, celui qui soulage la conscience, celui qui devient notre ami, celui qui va nous aider au travail, celui qui va nous aider à trouver un travail, celui qui va nous aider, peut-être qui va chasser nos angoisses, celui qui met la paix dans le cœur, celui qui est présent des fois dans les petits problèmes, les grands problèmes, c'est ce Jésus-là. C'est lui, vers lui qu'on veut se tourner parce que c'est lui qu'il faut recevoir. Il y a quelques années, avec le groupe de jeunesse dans une autre église, on avait voulu voir un petit peu apprendre aux jeunes à rendre témoignage publiquement. Parce qu'on s'était rendu compte que des fois... Alors on avait fait une réunion de jeunesse, on avait tiré au sort, et 4 jeunes devaient rendre témoignage. Et puis tous les autres jeunes ont noté. Alors on notait la tenue, le langage, le contenu, etc. C'était un exercice pour voir et on avait fait ça, puis ça avait super bien marché, c'était très intéressant. Dans l'ensemble, les témoignages avaient été très bien donnés, peut-être qu'ils s'étaient bien préparés. Mais on avait relevé un petit truc ou un petit défaut là qui revenait souvent. C'est que le point d'orgue du témoignage de chaque jeune, c'était « Et j'ai décidé de me faire baptiser ». Et là, on disait « Mais c'est pas ça le point central, la conversion à Jésus-Christ. Le point central de la conversion, c'est « J'ai découvert qui est Jésus. Il est devenu mon sauveur. Je me suis tourné vers lui et il a changé ma vie. » C'est ça. Et ensuite, bien sûr, il y a l'engagement qui vient, qui est aussi important. Mais le point central de la conversion, c'est qu'on découvre qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Jésus que je vous annonce, hein, c'est écrit. Nous, on veut prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité. On veut savoir rien d'autre, finalement, que lui. On veut parler de lui, parce que c'est lui qui change les vies. Vous avez des personnes, des fois, qui prétendent être chrétiennes et elles ne connaissent pas Jésus. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Être chrétien, c'est avoir rencontré et découvert qui est Jésus. Je voudrais souligner aussi un autre aspect de leur conversion. C'est que leur conversion a été accompagnée d'une action de l'esprit. Dans Actes 17, il y a une expression qui revient, enfin qui est mentionnée. Quelques-uns furent persuadés, convaincus, touchés en profondeur. Et puis, lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. » Et on retrouve notre mot persuasion, conviction. Paul rappelle que justement, la prédication de l'évangile, la réception de l'évangile doit déboucher sur une persuasion, une conviction, il faut que notre conscience soit touchée. La conversion à Jésus-Christ, ce n'est pas une expérience superficielle, mais c'est quelque chose qui doit aller en profondeur, qui doit toucher notre désir, qui doit toucher notre conception de la vie, qui doit toucher notre conscience. Et il faut cette action de l'Esprit qui puisse aller en profondeur. La Bible nous dit que le sang de Jésus peut aller jusque dans la conscience et la purifier des œuvres mortes. Cette action de l'Esprit, appelée parfois la conviction de péché, de jugement, de justice, appelée aussi la repentance, on l'appelle aussi la nouvelle naissance. C'est lorsque l'Esprit de Dieu vient donner la vie. La Bible nous dit que nous sommes morts. On est mort sur le plan spirituel. Bien sûr, on est vivant. Mais tant qu'on n'a pas découvert Jésus, on est mort. On est séparé de Dieu. On est un petit peu comme une rose qui vient d'être cueillie, qu'on a mise dans un verre. Elle continue de vivre, mais elle est en train de mourir. Et on est un petit peu dans ce contexte-là. Et la Bible nous dit que lorsque nous tournons nos yeux vers Jésus, on reçoit Jésus-Christ comme sauveur. Il se passe une action de l'Esprit. Imperceptible au regard, on ne peut pas... Mais la régénération, la nouvelle naissance, la vie nouvelle, Dieu dépose la vie. Et à un moment donné, ça va se voir. Ça produit quelque chose. Ça produit un changement. La conscience est lavée. Les désirs sont changés. Le cœur est transformé. Et beaucoup de choses sont changées. Quand une personne prétend s'être convertie, je dis souvent, moi, ce que je veux voir, c'est la nouvelle naissance. Alors, ce n'est pas écrit sur le front, la nouvelle naissance, hein. Mais ça va produire un fruit, forcément. Il arrive parfois que des personnes vont faire une démarche de conversion. Et finalement, on ne voit pas cette nouvelle naissance derrière. On ne voit pas cette action de l'esprit. La personne, elle ne capte toujours pas. Il n'y a pas la joie de l'esprit, il n'y a pas l'assurance du salut. Pourquoi ? par expérience, je me rends compte que des fois, la démarche de conversion n'est pas assez complète. Vous savez, Dieu pèse les cœurs. Et si je ne mets pas les choses à la lumière, si j'en retiens, si je dissimule certaines choses, si je ne vais pas au bout, Dieu ne valide pas quelque part, si je peux parler comme ça. Mais la conversion, elle doit être accompagnée de cette action de l'esprit qui s'appelle la nouvelle naissance. Et c'est beau lorsque quelqu'un ne comprend rien. Là, j'ai le souvenir d'avoir vu des personnes qui ne comprennent rien, puis quand Jésus devient leur sauveur, leurs yeux s'ouvrent. Ils comprennent la Bible. La grâce, elle est en train d'agir, et ça, c'est quelque chose de beau. Je vous souhaite de vivre la nouvelle naissance, si vous ne l'avez pas vécue. Enclenchez la conversion, et à un moment donné, il y aura cette action de l'esprit, cette action de la régénération dans les cœurs. Ce que je remarque aussi, et c'est très important de souligner, c'est que cette conversion, elle a produit de profonds changements. La conversion, ce n'est pas quelque chose de platonique. Mais on voit ces gens, ils ont vécu de profonds changements, au point même d'être persécutés, malmenés. Mais on voit que la conversion de ces Thessaloniciens a débouché sur un abandon des idoles, notamment. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie pour nous, mais ça veut dire des pratiques idolâtres, ça veut dire des cultes bizarres, des choses. Ils ont rompu avec ça. Ils se sont tournés. Lorsque Jésus devient notre sauveur, il y a des changements. Il y a forcément un changement. Il n'y a pas de conversion à Jésus-Christ sans un changement à l'intérieur. Un changement au niveau des habitudes et des manières de faire. Un changement au niveau des pensées, des priorités, des valeurs. Jésus devient le premier, le sauveur. Un changement au niveau des objectifs pour servir le Dieu vivant et vrai. Un changement au niveau des motivations. Un changement au niveau du caractère. Il y a un changement. Alors bien sûr, il y a encore du travail après. Mais il y a un changement qui doit s'observer. Parfois, il y a des personnes qui sont tellement changées qu'on n'arrive pas à imaginer ce qu'elles étaient avant de se convertir. Je vois Stéphane, quand j'entends son témoignage, j'ai du mal à imaginer ce qu'il était avant. Parce que Dieu fait une belle œuvre. Je pense à un frère, quand il me dit ou quand il dit ce qu'il était avant, mais j'arrive pas à l'imaginer. Des fois, on les voit tellement changer. Dieu a fait une telle œuvre de transformation, de restauration, qu'on ne peut pas penser qu'un tel faisait ceci ou cela. Et on n'arrive pas à l'imaginer, mais Dieu est capable de cela. Dieu est capable de changer. Et ce changement est absolument nécessaire. On n'a pas la force de se changer soi-même. Mais lorsqu'on donne les clés au Seigneur, lui, il est capable de nous transformer. Le plus violent peut devenir le plus doux. Le plus dur peut devenir le plus aimant. Le plus égoïste peut devenir le plus généreux. Et enfin, on peut voir comme ça de tels changements, des fois des changements profonds dans la nature humaine. Et puis, une dernière chose sur la conversion de ces Thessaloniciens. Leur conversion, elle s'est faite simplement. Vous avez reçu. La conversion à Jésus-Christ, c'est quelque chose de simple. L'Évangile, c'est un cadeau qui nous est offert. C'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Et c'est d'abord, je le disais tout à l'heure, c'est une question de réceptivité. Pas une question de compétence, pas une question de savoir intellectuel, pas une question de je ne sais quoi, mais c'est simplement une question de réceptivité dans la foi. J'aime beaucoup ce texte de l'Évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand il écrit « Je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez les termes où je vous l'annonçais. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous annonçais, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour leur dire « C'est simple l'Évangile. Vous avez reçu Jésus-Christ. Et gardez cela. Et leur dit, persévérez dans cela. L'Évangile, c'est quelque chose de simple. L'être humain a tendance à le compliquer. Des fois, mettre des choses, il y a quelques années, je regardais Question pour un champion. Et à un moment donné, dans les quatre à la suite, il y a eu les prières. Je me suis dit, oula, ça m'intéresse ça. Mais voir. Et dans les questions sur les prières, je n'ai pas pu répondre une. C'est-à-dire, c'était des prières. Je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai dit, mais c'est compliqué la vie, là. J'étais un peu piqué de ne pas avoir pu répondre, mais c'est parce qu'on a. Je pensais que ça serait des textes, on irait chercher des textes bibliques ou quelque chose. Mais non, on était. Je sais pas où on est allé sortir tout ça. Mais ça m'a un petit peu. Il dit, mais on se complique la vie là. L'évangile, c'est simple. On tourne nos regards vers Jésus. Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, tu es le seul qui peut me changer. Et accepter ce changement-là. Accepter que Jésus puisse changer notre cœur, à l'intérieur, au plus profond de nous. Parce que je remarque des fois que certaines personnes veulent que Dieu change leurs problèmes, leur situation, leur entourage, leur femme, leur conjoint. Mais Dieu veut changer ton cœur. C'est toi qui dois changer. C'est à l'intérieur. Et il est celui qui peut le faire. Se convertir, c'est donner les clés à Jésus. J'aime cette expression. Vous savez, les clés, quand on a les clés de quelque part, ça veut dire qu'on a un petit peu autorité sur le lieu, par exemple. J'ai les clés de ma maison parce que c'est ma maison. J'ai autorité sur ma maison. Et dans la Bible, les clés, c'est un symbole d'autorité. Et nous, on veut remettre les clés de notre cœur à Jésus. C'est ça, se convertir. Tournez-vous vers Jésus. Considérez ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Recevez-le comme sauveur. Et il est celui qui pourra changer votre vie. On va le prier maintenant. Et je veux prier pour que quelqu'un puisse faire cette démarche de conversion. Dire, Seigneur, je veux que tu changes ma vie.